Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
L'erreur de la semaine est une erreur multiple. Cet échec concerne une application dont vous avez forcément entendu parler, l'application Stop Covid. Stop Covid, cette application destinée à savoir si vous avez croisé un malade du coronavirus susceptible de vous contaminer. Si je dis que vous en avez entendu parler, c'est parce qu'au moment de son lancement, elle a donné lieu à des combats enflammés pour savoir si cette appli allait terrasser nos libertés et notre vie privée plutôt que le virus. Des combats enflammés, souvenez-vous.
Mesdames et messieurs de la majorité, Stop Covid est un pacte faustien qui consiste à nous vendre plus de sécurité sanitaire contre moins de liberté, plus d'États soi-disant protecteurs contre moins de responsabilité individuelle et de libre arbitre.
Le traçage numérique pose la question des discriminations. L'employeur qui procède à un recrutement, le propriétaire suspicieux de son voisin peut installer l'application. Il peut l'utiliser aux seules fins de connaître la sérologie d'une unique personne. Comment croire que ça n'arrivera pas ?
Au nom de la santé publique, le Covid ne vient-il pas installer la défiance et la désocialisation ? Comme le disait un historien israélien dont je n'ai plus le nom, en plus de savoir sur quelle touche le doigt appuie, on veut savoir désormais à quelle température il le fait.
En réalité, votre application masque votre propre effondrement. Plus vous êtes incapable dans vos missions essentielles, plus vous êtes intrusif dans les libertés des citoyens.
Et d'ailleurs, même le gouvernement semblait ne pas trop y croire, puisque le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, chargé de vendre cette application dans l'opinion, l'a fait non sans lancer moult parachutes et autres bretelles pour amortir la chute éventuelle.
Finalement, l'alternative qui se pose à nous est simple et binaire. Tout faire pour éviter que l'épidémie ne reparte, ou alors, pour des raisons politiques ou philosophiques, choisir de priver les volontaires qui le souhaiteraient de bénéficier de la protection de cette application, mais dans ce cas, accepter le risque conséquent et, pour le dire plus crûment, les contaminations supplémentaires, les malades supplémentaires, les morts supplémentaires et le risque de reconfinement supplémentaire.
Alors effectivement, quelques mois plus tard, Stop Covid est un beau Super Fail, mais un échec bien différent de celui que l'on redoutait au départ. Alors, autant vous le dire, pour le moment, notre vie privée ne risque pas grand-chose puisque bien peu de Français ont réellement téléchargé cette application. Selon un récent décompte de la Direction Générale de la Santé, la DGS, Stop Covid a été téléchargé 2,3 millions de fois et quelques 1500 personnes ont signalé un diagnostic positif. Seulement 72 notifications ont été envoyées, un nombre étonnamment bas au vu de la recrudescence actuelle du nombre de cas positif au test du coronavirus. D'où cette question, pourquoi est-ce que cela marche si mal? Est-ce l'application qui a été mal conçue? Après tout, on nous expliquait que le contact tracing, comme on dit, était la solution contre la Covid, ou bien est-ce le contact tracing par application qui ne donne pas satisfaction? Vous allez l'entendre, les erreurs ne sont pas nécessairement là où on croit qu'elles sont.
Super Fail.
Pour tenter de comprendre les causes de l'échec de Stop Covid, je me suis tout d'abord tourné vers Jean-Marc Manac. Il est journaliste à Next Impact et spécialiste des applications et des questions de vie privée. Qu'est-ce que l'on redoutait au départ ?
Voilà, beaucoup de choses. La première chose, c'était la fiabilité de la technologie Bluetooth. Parce que nombreux ont été les spécialistes en sécurité informatique ou spécialistes d'Internet et des technologies mobiles à faire remarquer que le Bluetooth permettait de mesurer la proximité à plus ou moins 10 mètres. Or, il fallait mesurer une proximité à 1 mètre, d'une part. D'autre part, le Bluetooth ne permet pas de distinguer s'il y a une paroi entre deux individus. Donc deux personnes qui sont bloquées dans un embouteillage à un mètre de distance, quand bien même leurs portes respectives de leur voiture sont fermées, auraient été mesurées à proximité. Trois, le Bluetooth ne permet pas de mesurer les gestes barrières, le fait de porter un masque ou d'être derrière une paroi en plexiglas, comme c'est de plus en plus le cas dans les magasins. Donc il y a eu énormément d'articles au début pour dire que le Bluetooth ne permettait pas de mesurer la qualité de la proximité entre deux personnes. La deuxième chose qui était redoutée, c'était les problématiques de liberté et de vie privée. Parce qu'on avait d'un côté des solutions qui était défendu par énormément de défenseurs de la vie privée, qui reposait en partie sur une API, c'est-à-dire une technologie mise en place par Google et Apple pour justement améliorer la mesure de la proximité Bluetooth. Sauf que Google et Apple, pour lutter contre tout risque de dérive de surveillance de masse et le fait que des États puissent centraliser la liste des personnes qui auraient été des cas contacts, c'est-à-dire des personnes à proximité de personnes s'étant déclarées Covid positives, Google et Apple avaient conditionné l'utilisation de leur technologie au fait d'utiliser une technologie décentralisée, à savoir les identifiants des personnes contaminées sont envoyés sur l'intégralité de tous les téléphones portables des utilisateurs, histoire d'empêcher un État ou une autorité sanitaire d'avoir la liste de toutes les personnes qui ont été des cas contacts. Or, la France a été l'un des rares pays au monde à choisir de centraliser tous les cas contacts au motif qu'il en allait d'une question de souveraineté nationale, qu'on ne pouvait pas faire confiance à Google et Apple, quand bien même ni Google ni Apple n'ont accès aux identifiants des cas contacts. Et donc, le fait de choisir une technologie centralisée a fait qu'ils n'ont pas pu utiliser la technologie de Google et Apple, et donc Stop Covid est moins fiable en termes de mesure de la proximité que les applications décentralisées utilisées par la quasi-totalité des autres pays.
Bon, alors, avait-on raison d'avoir peur ?
Alors, la question de la souveraineté, j'avoue que j'ai jamais compris. Pour deux raisons. La première, c'est que donc ni Google ni Apple n'ont accès aux identifiants des cas contacts. La deuxième, c'est que on a vu le Health Data Hub mis en place pour justement identifier notamment les cas contacts, a été confié à Microsoft. Donc d'un côté, on n'a pas le droit d'utiliser Google et Apple au nom de la souveraineté. De l'autre côté, on donne la liste de tous les cas contacts sur des serveurs Microsoft. C'est complètement invraisemblable, cette question de souveraineté. Pour ce qui est des risques de surveillance de masse et d'atteinte à la vie privée, c'est tout aussi absurde. Pourquoi ? Parce que le développement de Stop Covid a été confié à un laboratoire de l'INRIA, qui est le laboratoire de l'INRIA spécialiste de la protection de la vie privée et qui lutte justement contre les risques de surveillance de masse. Donc je vois pas comment l'INRIA aurait pu favoriser la surveillance de masse alors même que ces chercheurs sont précisément ceux qui luttent contre la surveillance de masse. Donc tant du côté des autorités que du côté des opposants à Stop Covid, les arguments rétrospectivement paraissent à ce stade infondés.
Alors dans ces conditions, comment s'explique l'échec ?
La première raison, et ça Cédric O l'avait reconnu, c'est que ils ont fait Stop Covid. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on risque de les accuser à terme de n'avoir pas tout fait pour essayer d'enrayer la pandémie. Et donc, ils ont fait ça parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais ça relève vraiment du solutionnisme technologique, à savoir, pour résoudre tous les problèmes, cliquez là, on fait quelque chose. La notion de contact tracing a été très, très mal comprise. C'est-à-dire que quand Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, explique le 15 mars qu'il faut déployer des brigades de contact traceurs de terrain pour faire du contact tracing de terrain, à savoir téléphoner aux personnes qui sont Covid positives pour leur demander l'identité des personnes qu'elles ont croisées dans les jours précédents pour ensuite prendre contact avec ces cas contacts pour leur demander de se confiner et de faire un test, il explique au Parlement que l'application sur téléphone mobile, c'est un complément du contact tracing, mais que le cœur du contact tracing, ce sont les brigades sanitaires de terrain. Sauf que la quasi-totalité des politiques, des opposants à l'application et des journalistes n'ont fait que parler de l'application mobile et pas du tout du contact tracing de terrain. Depuis, on en a un petit peu entendu parler, mais à l'époque, la quasi-totalité du débat s'apportait sur l'application téléphone mobile. Le nombre d'articles dans la presse sur Stop Covid, c'est des milliers. Le nombre d'articles dans la presse sur le contact tracing de terrain, c'est quelques dizaines. Donc les termes du débat ont été très très mal posés dès la base. Et il y a une deuxième raison à ça, c'est que l'étude de Christophe Fraser, qui est donc ce chercheur en épidémiologie britannique, qui participe au Big Data Institute à Oxford, qui avait rédigé l'article universitaire sur lequel toutes les applications de contact tracing mobile dans le monde entier se sont basées, a été rédigé en février-mars en se basant sur la situation sanitaire en Chine, à savoir un taux R supérieur à 3, pas de masque, pas de gestes barrières, pas de gel hydroalcoolique, pas de confinement. Et donc pour que l'application marche, il fallait qu'il y ait ce R supérieur à 3, qu'il n'y ait pas de masque, qu'il n'y ait pas de gestes barrières, pas de confinement. Or, quand l'application est sortie en France, mais comme dans les autres pays, le R était inférieur à 1, la majeure partie des gens qui croisaient des inconnus portaient des masques, on se lavait les mains et il y avait la distance sociale. L'application a été conçue pour une circonstance sociale et sanitaire qui n'était plus le cas en juin quand l'application est sortie. Donc elle ne pouvait pas marcher. Par contre, elle pourra peut-être marcher si effectivement on a un rebond et qu'on repasse au-dessus de 3 en matière de reproduction du virus, mais par contre elle ne marchera pas non plus si on continue à porter des masques et si on continue à rester à plus d'un mètre de distance de personnes inconnues.
Voilà donc pour la partie numérique de l'échec de Stop Covid, mais ce n'est pas tout. D'après une chercheuse, le contact tracing, comme on dit, en tant que tel, requiert une adhésion au système bien supérieure à ce qu'elle a été en France. Cette chercheuse, vous allez l'entendre, il s'agit d'Isobel Braithwaite. Elle travaille à UCL, l'University City of London.
We did a study where we looked at
On a réalisé une étude dans laquelle on s'est intéressé à toutes les études scientifiques publiées autour des applications de suivi de contact pour voir s'il y avait des preuves de leur efficacité dans le contrôle de la propagation du
Covid-19.
Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a pour l'instant peu d'indications pour nous dire si ces applications marchent et si elles marchent bien. La plupart des études que nous avons trouvées étaient des études de modélisation, ce qui veut dire qu'elles sont basées sur les pertes hypothétiques, mais aussi sur des modèles mathématiques qui sont effectués par-dessus. Avec ces études de modélisation, ce que nous pouvons voir, c'est que pour avoir un impact significatif sur la propagation du virus, il faut une très grande proportion de la population utilisant ce genre d'application.
Mais alors, quel pourcentage faut-il ? Eh bien, un pourcentage élevé.
Pour contrôler la propagation seulement avec l'application, sans la combiner avec d'autres nombreuses mesures, il faudrait probablement quelque chose aux alentours de 56 à 90% de la population. Donc c'est vraiment plus de la moitié de la totalité de la population. Et tout le monde ne possède pas de smartphone, donc ça me paraît être un assez gros challenge.
Et alors, comment cela s'est-il passé en Corée du Sud, pays donné en modèle ?
Selon moi, on ne peut pas encore statuer. On ne sait pas encore pour l'instant quel est l'effet de ces applications dans la pratique. Je dirais qu'en Corée du Sud, ce n'est pas seulement qu'ils utilisaient l'application, ils avaient un système intensif de suivi de contact supporté par des données fournies par les caméras de surveillance, les cartes de crédit, des dossiers de voyage, tout cela regroupé ensemble. Donc c'était très intense en termes de données. Il y avait beaucoup de surveillance impliquée et aussi un nombre important d'individus qui faisaient ce travail. Ils n'ont pas simplement compté sur une application et c'est un message clé pour nous. Les applications peuvent être utiles, elles peuvent faire partie intégrante de la solution, mais elles ne peuvent pas être la solution. Elles doivent être combinées avec d'autres approches. Le contact tracing de terrain, fait par des personnes qui sont formées à cela, doit en faire partie. Particulièrement parce que tout le monde ne possède pas de smartphone.
Évidemment, c'est beaucoup plus simple de rendre l'adhésion à ce système obligatoire dans un pays qui n'est pas une démocratie.
Plus il y a de personnes qui utilisent ces applications, plus ces applications ont de chances d'être efficaces. Mais on ne sait pas ce qui a joué en Chine, parce qu'ils ont pris évidemment d'autres mesures, comme les quarantaines forcées. Donc c'est assez difficile de définir la contribution de l'application. Mais bien sûr, plus elle est utilisée, plus elle aura d'effet.
Stop Covid révèle une fois de plus que l'administration française a bien du mal à développer une application. Le ratage de Stop Covid rappelle d'ailleurs l'échec de SAIP, une application destinée à alerter les Français en cas d'attentat. Ratage qui a d'ailleurs été traité dans un superfail que vous pouvez encore télécharger sur le site de France Culture, bien sûr. Bref, pour être mis en garde contre certains dangers, il va falloir s'y prendre autrement. Superfail a été gâché par Vivien Demeyer à la réalisation, ruiné par Juliette Deveau et Aurélien Dubost à la production, et gâché par Cindy Legrumelec à la technique. Superfail.